Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un truc. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1 500 km en 30 jours, à raison de 50 km de course et de 2 heures de nage au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux assos. Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais c'est franchement pas facile de courir plus de 150 km par semaine tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mouezza, qui est depuis devenu mon préparateur mental. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc, et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Je suis aussi devenu un meilleur professionnel, un meilleur papa et un meilleur époux. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc, je t'invite à aller faire un tour sur agridepa.me/mrc. Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode de la foire aux questions du podcast de Nakan. Je suis très heureux d'animer cette FAQ avec mon ami Greg. Salut Greg.
Salut Hermano, comment vas-tu?
Eh ben je vais assez bien, pour ainsi dire. Je suis à nouveau blessé, donc ma préparation du défi Agrippa est un petit peu ralentie, mais j'entends aussi dans mes écouteurs que c'est pas trop la grosse fête pour toi non plus.
Ouais, non, je sors d'un gros rhume, j'ai le nez encore un peu pris.
Bon, pourtant, il me semble qu'il y a quelques jours, t'as été te la couler douce au soleil de Lanzarote, non?
Bah écoute, oui, j'ai fini une compétition à Lanzarote, et bah comme tu le sais probablement, hein, les efforts physiques importants ont tendance à baisser un petit peu le système immunitaire, et bah là ça se confirme, hein. C'est-à-dire que sur le retour après avoir fait mon half Ironman là-bas, je sais pas, j'ai pris un coup de froid, j'ai pris quelque chose qui passait dans l'air, et voilà, gros rhume. C'est pas la première fois que ça m'arrive après une compétition. En général, c'est plus après des marathons ou de l'Ironman. C'est vrai qu'après les half, normalement ça m'arrive pas, mais là voilà. C'est le cas.
Bon, mais moi, je pense que ça vient peut-être de la récupération. T'as peut-être pas bu la bonne bière, la bonne cerveza, comme on dit en espagnol, c'est ça?
Ouais, c'est probablement un truc dans le style. En tout cas, je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Mais voilà, c'est pas un truc dramatique, donc ça va.
Bon, bah écoute, en tout cas, on sent bien que t'as la patate quand même, même si t'as la voix un petit peu enrouée. Et ça tombe bien parce que j'ai plein de questions pour toi pour l'épisode du jour qu'on va faire assez rapide, hein, c'est une foire aux questions, mais qui vient en réaction à un message que nous avons reçu de Vincent. Vincent, je ne m'aventurerai pas à prononcer ton nom de famille parce que déjà on va garder un petit peu d'intimité, et puis entre la prononciation française, la prononciation suisse, la prononciation allemande, etc. Voilà, on va dire que c'est Vincent R qui nous pose la question suivante. Salut Hermano et Grégory, j'essaie de comprendre comment calculer le TSS score en natation. J'ai recherché des informations, mais je n'arrive pas à comprendre. Pouvez-vous faire un épisode comme celui sur la FTP qui était vraiment très bon? Je vous écoute depuis la première saison, le podcast est vraiment de très bonne qualité. Bon, ça faisait pas partie de la question, mais ça fait pas de mal de se faire mousser un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, Greg?
Ouais, bah écoute, et puis on va traiter cette question. Alors, j'aimerais tout de suite avertir que j'ai pas toutes les réponses à tous les tenants et aboutissants du TSS en natation, parce que c'est des notions qui sont parfois un peu abstraites. Et puis là, on va typiquement rentrer dans des métriques qui sont proposées par Training Peaks, hein. C'est eux les créateurs du TSS et donc qui ont adapté les formules pour la natation. Et donc c'est pas forcément les mêmes calculs qui sont appliqués sur toutes les plateformes, mais bon, ça doit être dans le même style, hein, puisqu'on obtient à peu près les mêmes chiffres sur d'autres plateformes.
Bon alors, je dois quand même bien dire que on a parlé de la puissance en course à pied et tu en parles très souvent, notamment sur le blog nakan.ch. Tu parles aussi d'un petit appareil qui sert à mesurer cette puissance, pour ne pas le nommer, c'est le fameux Stride. Tu parles aussi, enfin on parle aussi souvent de la puissance en vélo et c'était notamment l'objet de notre dernier épisode de la saison régulière où on a parlé du fameux FTP. Bon, en natation, moi, j'ai un point de repère. En général, c'est le temps aux 100 mètres. Je suis pas certain de pouvoir travailler sur la puissance en natation, mais déjà, la première question qui me vient en tête, avant de répondre à Vincent, c'est la puissance en natation. Comment ça se mesure ? Parce qu'en course à pied, on a des appareils. En vélo, on a aussi des appareils qui sont intégrés, tu l'as dit, soit dans les manivelles de pédales, soit dans les pédaliers, soit pour les premières générations, dans les moyeux. Mais en natation, est-ce qu'on se met un petit capteur sur les bras, sur les pieds, sur les dorsaux ou ailleurs ou dans le bonnet, comment ça marche?
Alors j'ai une mauvaise nouvelle Hermano pour toi parce que la puissance en natation pour l'instant ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de watts en natation ou en tout cas si c'est quelque part c'est dans des labos sombres et c'est absolument disponible absolument pas disponible pour le grand public. Donc en fait en natation on a même du mal à mesurer la fréquence cardiaque. Je sais pas si t'as déjà essayé de porter une ceinture cardio dans l'eau, c'est compliqué, ça glisse, ça tient pas en place. Si t'as essayé la mesure optique d'une montre, ça donne tout et n'importe quoi, sauf les vraies valeurs. Donc, c'est compliqué. Donc, la seule valeur qui est vraiment pertinente à mesurer en natation, c'est tout simplement l'allure. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que Training Peaks a basé son TSS de natation sur l'allure. Et en fait, le calcul, il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de calculer pour le RTSS ou le RSS en course à pied ou alors le TSS en natation.
Moi, je demande un arrêt sur image, s'il vous plaît. TSS, RTSS, STSS, FTPS, voilà. Il faut que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que tous ces acronymes, Greg.
J'étais en train quand tu m'as coupé.
excuse-moi.
Donc, le RSS ou le RTSS, c'est le score de charge d'un entraînement en course à pied. Et puis, le TSS, historiquement, c'est le score de charge d'un entraînement de cyclisme avec un capteur de puissance. Et puis là, maintenant, on a ce que Training Peaks appelle le STSS, donc le Swim TSS, donc un équivalent du TSS pour la natation. Mais celui-là, il est basé sur l'allure, puisqu'on n'a pas de watts dans l'eau.
Bon, pourtant, ce serait... Enfin... scientifiquement parlant, ça pourrait être facile à calculer si on avait un appareil à mettre peut-être, tu sais, au bout des paddles, au bout des plaquettes, calculer la puissance qui est appliquée par les bras. Bon, à la limite, il faudrait avoir deux appareils pour avoir l'équilibre des forces appliquées, mais ça doit pas être si compliqué que ça à calculer.
En fait, c'est un petit peu compliqué parce que la puissance, effectivement, tu vas la développer avec les bras, mais tu vas aussi prendre appui avec les avant-bras, tu vas aussi prendre appui avec d'autres parties de tes membres supérieurs, et puis tu vas avoir une propulsion qui sera plus ou moins forte avec les jambes aussi. Et ces watts-là, ils comptent dans la propulsion, et c'est super compliqué de mettre tout ça en perspective pour avoir un chiffre cohérent.
Bon, sinon on va essayer d'inventer un système de dérive qu'on va pouvoir mettre au niveau du ventre, par exemple. Enfin, après il va falloir calculer la même chose en dos, mais tu vois un peu un système de dérive comme on a sur les bateaux avec une petite hélice qui tourne et puis qui va calculer un semblant de puissance développée. Bon bref, c'est pas la question du jour.
Inspecteur Gogo Gadget, on va te laisser développer tout ça et puis dans 15 ans quand tout ça sera prêt, on l'utilisera. Mais en attendant, on va utiliser les bonnes vieilles formules de Training Peaks pour déterminer le STSS. Ce sera beaucoup plus facile. Et puis, on pourra répondre à Vincent avant qu'il ait terminé sa carrière de triathlète.
Bon, donc allons-y. À ton avis, qu'est-ce que c'est que ce fameux STSS et comment est-ce que Training Peaks nous sort une formule de calcul?
Alors, en natation, on a dit l'allure est vraiment l'élément sur lequel on peut se baser pour juger de son intensité et donc à la fin d'un entraînement de la charge. Et puis, l'allure, c'est intéressant de calculer son critical swim PS, donc en fait son allure critique de natation. Et ça, en fait, ça se calcule avec un test dans lequel on va, pendant une session de natation, réaliser un 200 mètres, et puis ensuite on va réaliser un 400 mètres, et puis en fonction de ça, on trouve des calculateurs en ligne. Bon, il y a une formule mathématique, mais le plus simple, c'est quand même de trouver un calculateur en ligne. On met son temps sur le 200 mètres, on met son temps sur le 400 mètres, Et puis, ça vous donne votre allure critique de natation. Donc, soit en mètres par minute, soit plus communément en minutes pour un 100 mètres. Et donc, du coup, bah, ça, vous le savez, c'est une allure à laquelle vous allez théoriquement pouvoir tenir indéfiniment, ou en tout cas un petit peu comme la FTP de cyclisme. Pendant une heure, vous allez pouvoir nager cette allure-là sans faiblir. Et du coup, on a déjà une valeur de base qui nous permet d'avoir des métriques sur lesquels on peut se reposer.
Ouais, sachant que j'étais en train de rire un peu, mais c'est vrai qu'il est plus facile de tenir une heure en vélo, en tout cas pour le commun des mortels, que une heure en natation, parce qu'une heure d'effort en natation, c'est déjà équivalent à quoi, 4 heures de vélo quand on veut avoir une allure assez soutenue et notamment à cette allure critique.
Bah pas forcément hein, parce que cette allure critique, c'est à peu près l'allure que tu vas nager sur un Ironman. Un Ironman, le commun des mortels va le faire en une heure ou plus, donc ça va quand même durer une heure. Et quand on sort de l'eau, l'idée c'est pas d'être fatigué comme si on avait fait 4 heures de vélo.
Ouais, mais bon, ouais, bon, ok, allez, on va pas discuter trop longtemps sur ce sujet-là. Donc en gros, on mesure son temps sur 200 mètres, on mesure son temps sur 400, et puis après on va regarder un petit peu sur les sites qui proposent ce type de système, comment est-ce qu'on va pouvoir ressortir une allure critique en natation.
Oui, alors là, il y a des calculateurs en ligne qui permettent d'éviter tous les calculs compliqués en fonction du temps sur 400 puis du temps sur 200. Il y a également un protocole qu'on peut respecter pour faire une mesure la plus précise possible sur son temps de 200 et de 400 avec une petite récup entre les deux pour pas avoir trop l'effet de pré-fatigue. Mais enfin, tout ça, ça va nous donner notre vitesse critique de natation. Et puis, on va en arriver maintenant à cette vitesse critique de natation. Donc, la première chose à faire, si on veut qu'un outil comme Training Peaks ou d'autres nous donne une valeur de swim TSS qui est à peu près correcte après une séance de natation, c'est de renseigner un critical swim speed qui est également correct, parce que sinon il va se baser sur les valeurs par défaut de ton profil et du coup il va te donner n'importe quoi comme swim TSS. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est pour les personnes qui ne l'ont pas fait, eh bien faites ce test de 200 mètres et de 400 mètres en natation. On mettra un protocole idéal pour le réaliser dans les notes de cet épisode. Et puis, renseignez dans la plateforme que vous souhaitez utiliser votre critical swim speed. Il y a maintenant aussi Garmin, hein, sur les dernières montres Garmin, dans le profil de natation, il y a un outil pour calculer automatiquement pour faire un protocole de test automatique de son critical swim speed, donc qui permet de le faire en suivant simplement les indications de sa montre. Ça peut être un petit truc pratique pour les propriétaires de montres Garmin. Puis ensuite, vous le renseignez, que ce soit dans Garmin Connect, dans Training Peaks, dans Nolio, vous renseignez cette valeur pour que les calculs soient corrects.
Bon alors, mais la question subsidiaire, ça va être où est-ce qu'on renseigne ça ?
Alors, dans son profil, tout simplement dans son profil utilisateur, sur Nolio, c'est dans les paramètres de performance, et puis dans Training Peaks, c'est dans son profil, là où on définit les zones, on peut définir la fréquence cardiaque minimale, au repos, maximale, etc. Et puis là, il y a un endroit où on peut aussi définir sa vitesse critique de natation, et ensuite, ça va nous calculer, entre autres choses intéressantes, hein, nos zones d'allure de natation. Donc ensuite, quand on a un entraînement qui va dire, par exemple, faites 4 fois 50 mètres zone 4, puis ensuite une fois 200 mètres zone 2, eh bien on saura exactement à quelle allure il faudra nager ces entraînements pour faire le meilleur entraînement possible, si on a bien renseigné ces zones et qu'on travaille aux bonnes intensités.
Bon, et est-ce que de la même manière qu'en course à pied où on peut mettre des alertes soit sur la vitesse, enfin sur l'allure à laquelle on court ou sur la vitesse, ou alors sur les zones de fréquence cardiaque dans lesquelles on se trouve, est-ce qu'en natation on peut mettre des alertes si on n'est pas dans la bonne zone de swim TSS, et si oui, comment est-ce que réagissent les montres ? Est-ce que ça sonne, ça vibre, ça fait de la lumière ? J'imagine que ça dépend des marques, si cette fonctionnalité est disponible.
Alors c'est toujours un peu compliqué en piscine parce que l'allure, elle est calculée en fait à chaque virage qu'on fait au bout de la piscine, il n'y a pas une mesure en temps réel. C'est-à-dire que si tout d'un coup tu pars dans un 100 mètres, dans un bassin de 50 à bloc et que tu es beaucoup trop vite, eh bien, il va falloir que tu attendes jusqu'au prochain virage pour que la montre dise « Ah tiens, il est à 50 mètres, il a mis tant de temps, donc son allure depuis qu'il est parti c'est tant, et il est en train de foirer son truc, et tu es déjà à la moitié de ton 100 mètres. » Donc c'est vraiment une question d'expérience, et moi je ne suis pas trop à utiliser des gadgets qui sonnent dans tous les sens pour savoir dans quelle allure on est. C'est vraiment un feeling à avoir en natation. Et c'est important parce qu'en compétition, ce sera pareil, on n'aura pas de repères. Qui plus est, si on nage en eau libre, hein, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a pas une ligne sous l'eau qu'on peut regarder et dire tiens, là je suis à 50 mètres, là je suis à 100 mètres, et regarder la montre, tiens, là je suis à 3 minutes. Donc c'est plus compliqué. Donc il faut vraiment avoir un bon feeling de sa propre allure, de sa respiration, de son essoufflement, de sa cadence de bras, et puis de se dire, bah là, je suis plutôt environ à 1,45 au 100 mètres, ou alors à 2 minutes au 100 mètres, ou alors à 2 minutes 15. C'est un feeling à prendre, mais ça vient assez facilement. Si on travaille un petit peu en piscine et qu'on fait des intervalles de 100 mètres, par exemple, qu'on essaye de faire régulière, au début, on va faire n'importe quoi, puis ensuite, on va nager ces 10 fois 100 mètres à allure très régulière, et puis on aura ce feeling de la vitesse qu'on va nager. Donc, je recommande de le faire plus au ressenti, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens technologiques super fiables pour le faire.
Oui, et puis en plus de ça, même si ça vibre, même si ça sonne, même si ça fait de la lumière ou que ça clignote, amusez-vous à essayer de regarder votre montre pendant que vous nagez, et notamment le crawl ou le papillon. Je vous souhaite bon courage. Écoute, je pense qu'on a déjà fait le tour de la question là pour notre FAQ sur justement comment ressortir cette donnée du STSS en natation.
Alors, pas tout à fait, parce que là, on a décrit qu'est-ce que c'était que le critical swim speed, mais on n'a pas encore expliqué la corrélation qu'il va y avoir avec le swim TSS. Et c'est ça la question, en fait, de Vincent. Uh-huh. Donc là, on n'a pas encore tout à fait répondu à la question, mais la question, elle est assez simple. Hein. Training Peaks nous dit, sur le calcul de swim TSS, donc une fois qu'on a notre vitesse critique, notre CSS, on va mesurer la distance totale couverte par l'entraînement. Donc, si j'ai nagé 3000 mètres en piscine, ma distance totale, c'est 3000 mètres. Facile. Ensuite, déterminer le temps total que j'ai fait pour courir cette distance, mais sans inclure la récupération. Donc là, il faut avoir enregistré avec son appareil ou alors avoir mesuré soi-même sa séance de natation de manière à pouvoir dire, sur mon heure et demie pendant laquelle j'ai nagé, j'ai pris 10 ou 15 minutes de pause et les enlever à cette heure et demie. Et dire maintenant, j'ai nagé mes 3000 mètres en 1h15 pendant ma séance. Et puis ensuite, on va faire le calcul, en l'occurrence. Donc là, c'est la distance l'allure moyenne de notre session. Donc on va avoir idéalement des mètres par minute pour notre session, donc notre vitesse moyenne. Et puis notre vitesse moyenne va déterminer la charge d'entraînement. Bien évidemment que plus on sera proche de notre CSS, et plus on aura une intensité d'entraînement qui sera élevée, donc plus notre TSS de natation sera élevé. Et finalement, une fois qu'on a ça, on va faire la formule mathématique qu'on retrouve sur le site de Training Peaks. Donc là, je vais pas commencer à faire de l'arithmétique online dans un podcast. Je vais mettre en lien le tableau de Training Peaks qui explique comment faire ce calcul une fois qu'on a des mètres par minute pour aller chercher notre allure critique de natation, puis ensuite obtenir le swim TSS.
Ok, mais donc finalement, ce swim TSS, ça va être une valeur qu'on va recalculer pour chaque entraînement, ou ça va être une valeur qui va nous servir à calibrer nos entraînements? Parce que moi, de ce qu'on vient d'échanger, j'ai plutôt compris que c'était le CSS, le Critical Swim Speed, qui allait nous permettre de calibrer nos entraînements.
Oui, tout à fait. Le swim TSS, lui, va te permettre de calculer la charge de ton entraînement. Par exemple, si tu as fait 4 heures de vélo et que tu as tourné à 420 TSS, ça te donne pas vraiment l'intensité à laquelle tu as fait ton vélo, mais ça va te donner la charge. Donc, en fait, la fatigue que tu auras accumulée, si on peut dire ça. Et là, c'est la même chose pour le swim TSS. C'est de se dire, une fois j'ai nagé 3000 mètres en piscine, mais j'avais une charge en swim TSS qui était à 3,4. Et puis celle-ci, maintenant, elle est à 2,8. Donc, je me suis moins fatigué sur cet entraînement-là que sur le précédent. Pourtant, j'ai nagé la même distance dans à peu près le même temps. Mais ça permet de comparer la charge et puis de la cumuler à d'autres sports. Mais encore une fois, c'est toujours très délicat de cumuler. Par exemple, on sait que des TSS qui ont été obtenus en course à pied ou à vélo, on peut pas simplement les additionner pour faire le total de charge de la semaine, parce que ça n'a pas de sens, c'est additionner des pommes et des poires, et ça va pas bien. Mais ça nous permet, par exemple, de dire, cette semaine, sur mes 4 entraînements de natation, j'ai fait tant de TSS, donc j'ai fait beaucoup plus de charge que mes 4 séances de la semaine d'avant, parce que j'ai nagé moins, ou alors j'ai pris plus de temps pour nager cette distance-là.
Bon, pour périphraser l'un de nos invités préférés qui est revenu le plus dans ce podcast, je veux parler du grand consultant suprême, le docteur Denis Boucher. Il faut tout noter, tout calculer, et finalement, être triathlète, c'est devenir un data scientist.
Ouais, alors effectivement, mais le dernier conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est que rarement on va calculer le swim TSS soi-même. La meilleure solution, ça consiste à utiliser une plateforme qui va nous le calculer automatiquement. C'est le cas de TrainingPeaks, c'est le cas aussi de Nolio dans une certaine mesure. Et puis, de laisser ces plateformes faire. Mais le secret, et je le rappelle encore une fois parce que c'est important, c'est de renseigner des valeurs correctes de critical swim speed quand on configure ces plateformes, parce que c'est le seul moyen d'obtenir des informations qui sont fiables. Alors maintenant, le Nolio, par exemple, utilise pas les mêmes formules et les mêmes appellations que TrainingPeaks. Donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui en termes de formules mathématiques, de valeurs, etc., c'est vraiment propre à TrainingPeaks. Nolio, je le disais, hein, utilise la charge de Foster et c'est un petit peu différent. Et c'est pas forcément exactement les mêmes formules qui sont récupérées dessus, mais ça donne aussi un indicatif de charge de chacun de ces entraînements et donc la finalité, si on veut, est la même.
Donc finalement, ces données-là, c'est aussi celles qui vont servir à nos petits appareils connectés que l'on porte au poignet pour nous envoyer un petit message une fois de temps en temps en nous disant la charge d'entraînement d'aujourd'hui va nécessiter X heures ou X jours de récupération.
Alors ces paramètres sont pris en compte dans ces algorithmes-là, mais c'est surtout en fait ta réponse physiologique à la fin de ton entraînement qui va déterminer en fait la charge, la quantité de récupération qu'elle va te donner. Par exemple, sur les montres Garmin, c'est vraiment basé sur les algorithmes de First Beat qui se basent quasiment exclusivement sur la variabilité de fréquence cardiaque.
Ok, bon, écoute, merci pour toutes ces informations-là. Juste une petite dernière précision qui n'a rien à voir avec le STSS ou le TSS ou le CSS, mais on avait parlé il y a longtemps, je crois que ça devait être dans la première saison, du Zwolf Score. Tu peux rapidement nous rappeler ce que c'est, puisqu'on parle de natation et on parle d'acronyme?
Oui, alors le Zwolf, c'est un indicatif qui est beaucoup plus simple, qui permet en fait de déterminer son efficacité en natation, tout simplement en additionnant le nombre de secondes qu'on va faire pour une longueur. Si je nage en bassin de 50 mètres, par exemple, et puis que je nage mon 50 mètres, admettons, en 45 secondes, mon score Zwolf, ce sera 45 secondes plus le nombre de coups de bras que je vais mettre. Donc, si pour faire mon 50 mètres, je mets 40 coups de bras et que je fais 40 secondes, mon Zwolf, ce sera 85. Et puis ça, ça permet de mesurer son efficacité au fur et à mesure de ses entraînements et puis de voir si on progresse en termes d'efficacité ou pas. Mais c'est pas forcément un indicateur non plus qui est 100% fiable, parce que si on fait des intensités, si je fais des 100 mètres à bloc par exemple, oui, ce sera efficace, mais si je nage plusieurs types d'allures sur plusieurs types de distances, forcément je vais pas faire la même allure si je pars pour un 400 ou un 800 mètres que si je pars pour un 100 mètres. Donc toujours, encore une fois, si vous avez fait un entraînement où vous avez fait 8 fois 800 mètres par exemple dans votre bassin, ou que vous avez fait 10 fois 400 mètres, comparez pas votre Zwolf à un entraînement où vous avez fait 16 fois 100 mètres, parce que le truc est incomparable. Vous aurez forcément un Zwolf qui sera plus élevé pour les 400 ou les 800, parce qu'on part pas à la même allure pour un 400 ou un 800 que pour un 100 mètres.
Oui, finalement, ça va être des données qui s'apprécient pour chaque type d'entraînement. À la limite, on peut comparer un Zwolf entre le premier 800 et le huitième 800 si on fait 8 fois 800.
Exact.
Mais aucun intérêt de comparer sur deux entraînements parallèles,
sur
voire
un
même
800 et un 100 mètres, il y a aucun intérêt à comparer le Zwolf, par exemple.
Bon, et Greg, merci d'avoir répondu à ces questions, à cette question pour Vincent, et puis d'avoir éclairci aussi un peu ma lanterne sur tous ces termes-là. Tu sais que je ne suis pas trop un adepte de ces choses-là. C'est toi la caution technique du podcast de Nakan. Je te souhaite une bonne continuation, et puis nous, on donne rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Oui, c'est ça, un épisode qui sera intéressant, qu'on n'a pas encore enregistré, mais qui va se faire très très prochainement. Sur une thématique qui sera un peu centrale dans cette saison 4. On n'en dit pas plus, mais ce sera très très intéressant.
Et écoute, à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.
À la semaine prochaine. Ciao, Hermano.
Ciao.